Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h02 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est la dernière partie de l'émission avec toujours Rémi Barré, le journaliste de Marianne Perricolégas, la militante associative Lumière Laprès et le journaliste Benjamin Muller avec vous au 32-16 pour répondre à cette question. Peut-on rester fidèle toute sa vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre, comme on dit, des petits coups de canif dans le contrat ou est-ce qu'au contraire vous êtes fidèle? On attend vos témoignages au 32-16 et sur l'appli RMC. Il y aura bien sûr vers 14h30 RMC s'engage pour vous. On va revenir sur le scandale des polluants éternels à côté de Lyon. On a du nouveau dans ce dossier et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Quoi par
on
exemple?
On parlera notamment de TikTok dans le collimateur du gouvernement et on parlera aussi de la pénurie de carburant qui s'aggrave.
Mais oui, 15% des, des stations-service en difficulté en France.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC et on va continuer Estelle Midi avec le chiffre du jour. 38% des femmes avouent avoir déjà trompé leur conjoint. C'est un chiffre en nette hausse alors même que celui des hommes baisse, Rémi.
Oui, c'est ce que nous dit une étude YouGov réalisée il y a quelques mois. Si les hommes trompent plus que les femmes, 44% contre 38%, l'écart entre les genres se réduit au fil des années. En France, 55% des hommes se déclaraient infidèles en 2014. Ils sont 46% aujourd'hui. À l'inverse, les femmes se disaient infidèles à 32% en 2012 contre 38% aujourd'hui. Différence également entre les hommes et les femmes sur les raisons qui poussent à l'infidélité. Le manque d'attention et de considération du partenaire est avancé par 47% des femmes contre seulement 24% des hommes. Au contraire, davantage d'hommes, 39%, avouent juste tromper pour profiter d'une occasion qui se présente. Oh bah profiter du moment présent.
Comme une bagnole, quoi.
Contre seulement.
Ah bah celle-là, elle coûte 5 000 contre 4, au lieu de 6. Non, c'est incroyable.
Contre seulement. Et quand même, une femme sur 4. 22% des Français considèrent de toute façon qu'il est impossible d'être fidèle toute sa vie à la même personne. Les plus de 55 ans, avec l'expérience de la vie, sont même ceux qui croient le moins en la fidélité éternelle.
Parce qu'ils ont eu plus d'années pour tromper. C'est pour ça, certainement. Rémi, alors peut-on rester fidèle toute sa vie? Je vais bien sûr me retourner vers celui qui a le plus d'années autour de cette table. C'est Perricolégas, celui qui a eu le plus de mariages également.
Alors, je ne me souviens plus du tout. J'ai essayé de me remémorer tout ça, je ne me souviens de rien.
Arrêtez.
Mais je peux décrypter la situation. D'abord, je voudrais établir une vérité. La femme est infidèle, l'homme est volage. Ne confondons pas.
Ah bravo, bah super. Ah,
qu'est-ce que ça veut dire?
Que non, j'ai un respect pour l'engagement de la femme dans le couple.
C'est ça.
Qui est un engagement sérieux et solide. J'allais dire, on est un peu des salopards par rapport à vous.
C'est ça. Nous, quand on est infidèle, ça dépend.
Non, vous êtes des gens bien. Vous êtes des femmes, vous êtes des gens bien. Vous êtes voilà. Si vous trompez, c'est
qu'il y a peu de femmes qui ont des doubles vies, contrairement à vous.
Si vous trompez, c'est que vous êtes tombé sur un crétin ou quelqu'un qui vous respecte pas. Nous, on butine.
Je sais pas si je suis d'accord avec cette version un peu absolue.
Finir. C'est factuel, c'est scientifique. Nous, on butine,
c'est
bon.
C'est la NASA, c'est la NASA.
C'est pas possible, ça n'existe pas.
Pour autant, la relation extra-conjugale, vous vous souvenez la phrase de Rocard, on demandait est-ce que Sucé s'est trompé? C'est quoi? Est-ce qu'on cesse d'aimer l'autre?
Bah, c'est oui.
Pour autant. Est-ce qu'on cesse d'aimer l'autre? Est-ce que l'amour est égratigné?
Mais ça dépend si c'est
parce
juste
qu'on
petit...
a eu à un moment donné. Bah. Vous savez, moi, je suis gastronome. Même si j'avais du caviar tous les soirs
vous
ou
êtes
du foie gras. Il y a des gens
qui
ont un plat de nouilles tous les soirs. Il y a des gens qui ont un plat de nouilles tous les soirs. De temps en temps, ils vont manger un croque-monsieur ou un McDo. Vous voyez, je fais des transpositions.
Vous comparez les femmes au croque-monsieur
tous les soirs.
Voilà. Mais imaginez, je m'ennuierais quand même. Donc, on a dans la vie, justement, et je vais vous dire, les secrets de l'amour. Ah. C'est d'aller vérifier quelque part que ta femme est géniale. Et tu reviens vite à la maison en disant mon amour.
Ah, donc c'est l'infidélité, c'est une bonne chose.
Je t'ai trompé hier soir et je reste parce que tu es vraiment exceptionnelle.
Et elle te dit, c'est moi qui vais pas rester.
Oui, voilà. Elle a le droit elle aussi d'aller vérifier. Mais il faut vérifier à l'extérieur, j'allais dire, la solidité. elle a et la vigueur d'un amour par une comparaison objective et sincère.
Je trouve que c'est qui
ne constitue pas du tout. Voilà. Alors par contre, il y a des vrais adultères, il y a des vrais trompeurs, il y a des vrais tricheurs, tricheuses, des menteuses. Mais comme ça, de temps en temps, aller voir ailleurs. Et puis en plus, on peut avoir besoin d'aller rassurer quelqu'un.
Et on s'amuse à la chasse, et
quelqu'un qui est dans la détresse, on a apporté un peu de réconfort à une femme seule.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais
ou un homme.
Ah, vous
voyez
ça, mais bien sûr.
Non, il y a mille bonnes raisons. Il y a mille bonnes raisons humaines et généreuses de faire ça avec le cœur. Et puis, il y a les tricheurs et les menteurs. Voilà.
Évidemment. Loumière Laprès, vous qui êtes encore toute jeune et naïve, comme le disait Perico tout à l'heure, le pays des
innocentes, innocente.
Et c'est vous qui le dites.
Fraîche, d'accord.
Loumière Laprès, est-ce que vous, par exemple, vous concevez l'idée, vous avez 30 ans aujourd'hui, l'idée, vous êtes en couple, vous êtes très amoureux, ça c'est formidable. Est-ce que vous concevez l'idée de rester toute votre vie avec la personne avec laquelle vous êtes maintenant ?
Alors, ça dépend les modalités. Pour moi, fidélité égale pas forcément exclusivité. Je pense que c'est une conversation qu'on a de plus en plus. En tout cas, je le vois avec mes amis couple libre qu'est-ce qui est ok dans la déconnade entre guillemets. Pour moi, ce qui est important,
c'est une déconnade, vous.
Ça dépend. Pour moi, ce qui est important, c'est le contrat. Qu'est-ce qui unit les deux personnes ? Si ce qui unit les deux personnes, c'est un contrat d'exclusivité sexuelle, en l'occurrence, donc on couche avec personne d'autre, faire.
Mais ça, on se le dit pas, ça, normalement, dans un
couple. Si, moi, je pense que la communication, c'est de plus en plus. Pour moi, c'est ça le ciment d'un couple. Donc...
Moi, ça me paraît logique, en fait, sans avoir besoin de le dire.
Non, et alors, c'est très intéressant parce qu'en préparant l'émission, j'ai écouté un podcast très intéressant de France Inter sur justement cette question. Et il y a une sexologue qui disait que la plupart des drames conjugaux qui arrivent viennent justement du fait que les gens pensent que c'était évident. Alors que, par exemple, l'homme ou la femme n'est pas monogame, alors qu'il est engagé auprès de quelqu'un qui, lui ou elle, est monogame. Et du coup, ce qu'elle disait, c'est finalement le plus important, c'est d'en parler avant, pour savoir dans quoi on s'engage. Par exemple, moi, j'ai des très bons amis qui ont décidé récemment d'ouvrir leur relation. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on reste en couple, ils vont se marier bientôt, ils sont très amoureux. Ah oui. Mais si ça nous arrive, c'est OK, c'est pas très grave. Par contre, la règle, c'est pas des amis. Pas plus de une fois.
J'adore. Il y a un règlement,
il y a
question préalable. Tu vas chez le notaire, contrat de mariage, tu dis voilà, j'ai droit deux fois par an, un truc avec le notaire.
Je sais pas où ils en sont dans leur relation avec le notaire. On aurait pu lui demander juste avant.
Mais je pense qu'en
tout cas, moi, pour moi, pourquoi est-ce que les gens sont à ce point heurtés quand ils apprennent qu'on les trompe ? Moi, ça m'est arrivé d'avoir été trompée. C'est la rupture absolue de confiance, en fait. C'est l'idée que on peut plus faire confiance à l'autre. Or, si on a posé les règles avant. Et si on sait ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, je pense que du coup, ça facilite la chose.
Mais pour poser des règles, je pense qu'il faut savoir que l'autre est à peu près dans le même état d'esprit. Si toi, t'es volage et que l'autre, au contraire,
c'est pour ça qu'il faut en parler.
Pense que c'est l'amour à vie, tu vas te retrouver avec un petit retour de bâton qui ne va pas être très sympathique.
Mais c'est sûr que c'est un idéal là qui est décrit. Mais après, il y a l'épreuve des faits, il y a son amour propre, il y a le rapport à l'autre, il y a le rapport à. Bon, alors c'est compliqué.
Mais c'est la théorie là.
Ouais, voilà,
c'est de la pratique chez beaucoup de gens autour de moi, je t'assure.
Attention. Qu'il y a de plus en plus de réflexions sur ces sujets et c'est une très bonne chose. J'ai un copain.
Décidément, c'est jamais nous. C'est toujours les amis.
Bon, voilà.
Non, les jeunes qui vont acheter des préservatifs. Oui, c'est pour un ami.
C'est ça. J'ai un copain qui a une vingtaine d'années de plus que moi, donc il y a une cinquantaine d'années en gros, et qui lui, il y a 15 ans, avec sa femme, a vraiment dit écoute, on peut aller à droite, à gauche, etc. La seule règle, c'est que derrière, on débrief, on se raconte.
Ah,
il trouvait ça génial et tout. Et après coup, il m'a dit en fait, notre couple, c'était une catastrophe. En fait, même si tu crois que t'es ouvert d'esprit, quand ton amoureuse vient de dire bah ouais, j'ai couché avec Michel.
C'est super.
Tu t'en prends un coup, si je puis dire.
Oui.
Moi, ce que je pense, en revanche, c'est que le corps de l'autre ne t'appartient pas.
Oui.
À aucun moment.
Ça, c'est vrai.
Et donc, ma théorie du couple qui peut fonctionner, c'est si tu vas voir une fois à droite ou à gauche, un coup d'un soir, comme on dit. Très bien, fais-le.
Si c'est sexuel, très bien.
Sexuel.
Ouais. Okay. Je ne peux pas le savoir.
Sexuel.
Si y a des
sentiments, je ne peux pas le savoir. En revanche, ne viens pas avec ta culpabilité me le dire pour apaiser ta culpabilité. Je ne veux pas le savoir. Mais tu fais ce que tu veux, ton corps ne m'appartient pas.
T'es comme Macron, quoi. T'aimes pas les corps intermédiaires, si je comprends bien.
C'est ça.
On continue.
Très bonne vanne. Et en revanche, le truc qui est plus problématique, c'est quand le lien devient autre chose, que ce soit sexuel ou pas, d'ailleurs. Et là, ça devient problématique. Mais le petit coup de cul.
Une fois ça va, deux fois c'est pas possible. C'est ça que ça veut dire, en fait.
C'est. Non, mais si c'est que physique.
Alors, alors faut-il le dire ?
Ça veut dire que
mais pas forcément. Ça veut dire que moi, je suis très alignée avec l'idée de que le corps de l'autre ne t'appartient pas et que par contre, ce que tu peux décider, c'est de te lier, d'acheter une maison ensemble, d'élever des enfants ensemble, et surtout d'être la personne sur qui compter. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu peux pas faire du sexe avec quelqu'un d'autre? Moi, je suis pas sûre, parce que surtout, bah oui, mais c'est ça en fait.
C'est les jeunes, ça, Perico.
Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est pas. On peut avoir plusieurs amis, on a plusieurs frères et sœurs, on a plusieurs collègues, mais il y a que cette relation où, en final, le sexe a été sacralisé. C'est la seule chose qu'on pourrait pas faire avec d'autres gens, alors que on le sait. Enfin, en tout cas, c'est ce que cette sexologue que j'écoutais ce matin me disait. C'est quelque chose dont on ne peut plus naturel en réalité.
Alors on aura justement notre sexologue Catherine Solano dans un instant.
Catherine Solano.
Dans Estelle Midi, elle nous donnera son avis sur l'infidélité et nous parlera de ses passions bien sûr. Mais avant cela, on a Eddy qui nous appelle du Portel dans le Pas-de-Calais. Bonjour Eddy.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors oui, je tenais j'ai réagi assez par rapport au propos qu'a tenu Perico Léas, je voulais réagir par rapport à ça, parce que quand il a dit que les hommes étaient butinés, qu'on devait prendre exemple en gros sur les femmes, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que moi j'ai été infidèle, effectivement, il y a deux ans, je suis en instance de divorce.
Ça n'a pas été salutaire.
Tout à fait.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très bien, même beaucoup mieux maintenant. Mais
beaucoup mieux.
Je suis libéré d'un poids. Mais bon, disons que mon infidélité, je ne cherche pas à, comment dirais-je, à l'expliquer, ou plutôt à me convaincre que j'ai eu raison ou tort. J'étais infidèle par rapport à ma femme, par rapport à un manque d'attention d'elle-même. C'est-à-dire que il y avait des périodes où c'était pendant 6 et 8 mois, je n'avais aucune relation sexuelle parce que. Alors on n'en avait pas envie. Pourtant je faisais tout vraiment pour être je fais beaucoup de sport. On a 12 ans d'écart. Enfin on avait 12 ans d'écart et pour lui plaire. Mais c'est pas entre 6 et 8 mois. Et j'ai passé à l'acte au bout de 8 mois sans avoir aucune attention de sa part. Donc d'accord. Je ne cherche pas à expliquer l'infidélité.
Vous êtes toujours avec la femme avec laquelle vous avez eu une aventure.
C'était en voyage. En voyage à Agadir. Donc c'était avec une animatrice.
C'était à Agadir.
Et donc voilà. Et après ça m'a.
Mais vous lui avez dit à votre femme ou elle l'a découvert en fouillant dans votre téléphone comme d'habitude?
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah elle l'a découvert en fouillant dans votre téléphone. Oui.
Il faut supprimer les messages. Je dis.
J'avais un code. L'a découvert. Oui, non, mais ça c'est. Ça a été salutaire pour moi. Très honnêtement, ça a été salutaire parce que je me posais des questions quant à moi-même. Et quand j'ai eu cette relation avec cette jeune fille, ça m'a un tout petit peu rassuré, mon égo un peu flatté. Et du coup, la procédure de divorce est enclenchée, et tant mieux, quoi. Donc voilà. Mais je tenais surtout à dire que les hommes ne sont pas tous des butineurs.
Bien sûr que non. Voilà. Vous connaissez Perico, qui est souvent dans l'excès. Merci Eddy, en tout cas pour ce témoignage. Et bon courage à vous. C'est jamais facile une procédure de. Divorce.
Je voudrais rappeler que MeToo a quand même changé un peu les rap. Parce que pour tromper, il faut prospecter. Et la prospection peut être interprétée comme un harcèlement. Donc je trouve que MeToo a sauvé.
Il y a encore des rencontres entre hommes et femmes qui se font normalement.
Les hommes, et c'est heureux, ne tentent pas quand ils voient que, a priori, ils se disent pas, oh, c'est pas grave si ça marche pas. Non, il faut un peu plus attention à voir que la femme est consentante.
C'est pas du tout vu les choses sous cet angle-là, mais.
Faire l'amour avec quelqu'un et violer quelqu'un, c'est comme, tu vois, nager et se noyer, c'est pas pareil, quoi. C'est dans l'eau, mais c'est pas la même activité, en fait. Et c'est assez clair. A priori, tu sais quand tu te noies et tu sais quand tu nages. Bah, c'est pareil pour le viol.
Allez, je voudrais qu'on prenne Muriel. On n'était pas au viol non plus.
Bah oui, je sais bien.
On va prendre Muriel tout de suite, qui nous appelle de. Dordogne, tiens, qui est commerçante dans le foie gras et la truffe, ça pourrait plaire à Perico, ça. Bonjour Muriel.
Ça aide.
Bonjour à vous. Bonjour à
Muriel. Muriel, est-ce que vous faites partie des 38% de femmes qui avouent avoir déjà trompé leur conjoint?
Oui, malheureusement, oui, effectivement, oui.
Pourquoi malheureusement, Muriel?
Alors, dans le sens où j'étais mariée, et il y avait effectivement un moment donné où on ne se retrouve plus avec mon ex-mari. J'avais beau essayer d'expliquer qu'à un moment donné, il fallait se séparer. Mais à un moment donné, coup de contrat dans le canif, c'est moi qui l'ai fait. Et forcément, je suis allée voir ailleurs, mais pour pouvoir éventuellement me retrouver en tant que femme.
D'accord. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont dans ce cas-là qui disent qu'effectivement, Rémi rappelait les chiffres tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'attention de la part du mari et qu'elles ont besoin
de se retrouver
aussi
désirées.
C'est pareil pour les hommes aussi. Hein.
Ah oui. Voilà, alors que pendant des années, j'ai pu être sollicitée, mais je ne suis pas allée butiner.
Tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez divorcé, Muriel?
Eh bien oui, ça va bientôt faire 9 ans.
Ah oui.
Voilà.
Et vous avez retrouvé l'amour?
Oh oui, mais avec un parcours assez atypique, parce que du coup, je me suis retrouvée, moi, être trompée. C'était un gros souci aussi. Parce que justement, voilà, on se donne à 300% à une personne. Mmh. Et la personne, ma foi, elle met un coup de canif. Et là, ça fait mal.
Oui, c'est vrai que oui, on préfère mettre le coup de canif que le recevoir. En fait,
ça,
c'est.
Je suis pas sûr. Vivre avec la culpabilité peut être pire, à mon avis.
Il y a des gens qui vivent très bien avec ça.
Oui, à mon avis, ça dépend des profils.
Surtout les hommes, d'ailleurs.
Ah oui.
Tu culpabilises 24 heures.
Voilà, surtout en tant que femme, j'essaie de comprendre pourquoi.
Puisque vous l'avez fait aussi, Muriel.
Oui, mais justement, moi, ça a été expliqué. Il y a eu un échange avant. Alors qu'avec l'autre personne, il n'y a pas eu de pourquoi.
Et vous êtes resté avec la personne qui vous a trompé?
Non. C'était un pervers narcissique.
Donc, c'est embêtant. Eh ben oui, il y en a.
Des pervers narcissiques.
Merci Muriel en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Muriel pour ce témoignage. Ouais, il y a aussi des femmes qui trompent. Alors avant les femmes ne le disaient pas et ça aussi c'est la libération de la parole. Maintenant elles le disent. Il n'y a pas de raison pourquoi les hommes tromperaient.
Muriel a trompé dans une situation abîmée.
Oui.
Le problème, c'est quand on trompe alors que tout va bien.
Oui, sauf que la personne qui trompe souvent pense que la situation est abîmée, alors que celle qui est trompée se dit que tout va bien.
Exactement.
C'est ça le problème, c'est que tu as une divergence de vue.
Oui, aussi.
Ben oui. On est avec Catherine Solano. Quel plaisir, Catherine, de vous retrouver. Sexologue et cofondatrice de la plateforme de télésanté Doctical. Catherine Solano, franchement, la vérité. Catherine, est-ce qu'on peut vraiment rester avec la même personne toute sa vie?
Ah ben, moi, je vais vous dire oui, forcément, puisque dans mes patients, je vois des couples qui durent toute leur vie.
Enfin, ouais, s'ils viennent vous voir, c'est que ça ne doit pas être tout rose, hein, pardon.
Tout à fait.
Pour comprendre justement pourquoi ils sont encore.
Il y a des personnes qui restent fidèles toute leur vie, ça j'en vois, donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Je vois même, j'entendais Eddie tout à l'heure qui disait que sa femme, parfois, ne voulait pas avoir de rapport sexuel pendant 8 mois, quelque chose comme ça. Et je sais que j'ai des patients qui me disent, ma femme ne veut plus faire l'amour. Elle m'a même dit, va voir ailleurs si tu veux, mais moi je ne veux pas, j'aime ma femme, c'est avec elle que je veux être en couple, c'est avec elle que je veux faire l'amour. Vous avez des personnes qui sont vraiment très attachées à leur partenaire, homme ou femme. Hein.
Oui, mais quand on dit à quelqu'un, écoute, j'ai pas envie de faire l'amour, mais tu peux aller voir quelqu'un d'autre, je pense que si la personne va quand même voir quelqu'un d'autre, ce sont des paroles quand même.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous, vous avez raison Estelle, et d'ailleurs c'est intéressant par rapport au contrat dont vous parliez il y a quelques instants. Les contrats, c'est très important d'en parler, je suis entièrement d'accord avant, de dire est-ce que tous les deux on est pour la fidélité ou pas, parce que moi j'ai déjà vu un couple comme ça, enfin plusieurs, mais je pense à un, où la femme a dit à son mari, bah, pas de problème, je t'es trompé, tu peux faire pareil, on s'entend bien. Et lui, il n'était pas du tout pour ça, il n'en avait jamais parlé, il était marié, hein, il avait des enfants, et là, il est tombé des nues. Donc, c'est quand même mieux d'en parler avant. Néanmoins, ça ne résout pas tout, parce que entre la raison et les émotions, c'est pas la même chose. On peut dire à quelqu'un, oui, je suis d'accord pour que tu aies si tu as une aventure d'un soir, ne m'en parle pas, etc. Mais si on le sait, eh ben, on peut se dire, j'étais d'accord, mais finalement, je ne supporte pas. Parce que être d'accord intellectuellement et supporter émotionnellement, c'est pas du tout pareil.
Catherine Solano, est-ce qu'il faut vraiment faire la différence entre un coup d'un soir, comme disait Benjamin Muller, ce ne sont pas mes propos, et une double vie, c'est-à-dire une infidélité qui dure?
Tout à fait, c'est quand même pas la même chose. J'allais dire quelqu'un qui a bu, qui a une soirée, ou qui est dans une période de couple où ça va pas bien, il y a des tensions, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui organise une double vie, qui ment tout le temps, etc. C'est quand même pas la même chose. Et ce qui est important aussi, et vous en avez parlé, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir une relation extra-conjugale simplement pour se rassurer ou pour se dire qu'ils peuvent encore séduire alors que ça va très bien dans leur couple. Et il y en a d'autres qui en ont parce que ça fait 3 ans qu'ils disent à leur partenaire, écoute, c'est plus possible. Si tu n'es pas plus attentionné, plus présent, ça ne durera pas. Ce n'est pas la même situation du tout, vous voyez.
Ça, évidemment. L'infidélité par rapport à vos patients, elle est plutôt masculine ou féminine, Catherine Solano?
L'infidélité, des deux côtés. Hein. Souvent, il y a des couples homosexuels aussi, mais souvent, quand un couple hétérosexuel, il y a une relation extra-conjugale, si c'est la femme, c'est avec un homme, et si c'est l'homme, c'est avec une femme. Donc, forcément, il y a deux des deux. Hein.
Oui, ça c'est sûr. Perico Legas, quand on est infidèle, est-ce qu'il faut partir tout simplement ou essayer de reconstruire derrière?
Si vraiment c'est une infidélité structurelle, c'est-à-dire que l'amour est éteint, bien sûr qu'il faut partir. Je connais tellement de cas où on maintient parce que il y a des enfants. Je connais des couples qui se sont reconstitués parce qu'il y avait des intérêts financiers. Ça c'est terrible et que le divorce aurait été
de plus en plus d'ailleurs avec l'inflation.
Voilà. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et d'ailleurs, quand c'est fini, que ça finit bien, ça sera le thème d'une prochaine émission. On peut garder le lien avec l'ex. Vous savez, ça, on est.
Après, l'amour, c'est des hauts et des bas. Non, j'ai l'impression que si on estime qu'il faut c'est partir quand ça va plus. Non, mais moi, je consulte aussi.
Un peu comme la vie.
C'est un peu comme la vie. C'est non, mais en vrai, je veux dire, l'amour, c'est sur une vie entière. L'amour, c'est des hauts et des bas.
C'est humain.
On part quand on est en bas. C'est oui, mais je veux dire que par là, si on part quand on est en bas en se disant bon, bah voilà, ça fait 8 mois qu'on fait plus l'amour, bon, bah fin du couple, etc. Quitte à casser tout ce qu'on a construit, est-ce qu'on se dit pas aussi, bah tiens, je vais attendre un petit peu, aller consulter un sexologue, pourquoi pas, essayer d'en discuter, etc. Et les choses repartent.
Attention, on est dans une période de renonciation aux valeurs. Le premier symptôme de l'amour, c'est la concession. C'est-à-dire, c'est quand c'est difficile et qu'on essaie de résoudre.
Oui, pour le meilleur et pour le pire.
C'est une fuite. Allez voir ailleurs, c'est une fuite.
Voilà. Mais je
sais que c'est chez les écologistes, c'est l'amour est durable chez vous. Non, c'est ça l'avantage.
Ou biodégradable.
Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette idée comme quoi on serait dans une annihilation des valeurs. Je sais pas. Moi, je trouve que les couples.
Décadence, rien de grave.
Moi, je trouve que les couples que j'ai autour de moi, de jeunes de mon âge, sont bien plus sains que la totalité des couples de personnes plus âgées.
Est-ce vraiment des couples?
Oui, c'est des partenaires. C'est des partenaires.
C'est terrible.
C'est des gens.
Moi, je trouve ça horrible ce que vous dites.
Mais pourquoi ça?
Mais c'est des gens. Votre amoureux, un partenaire.
Mais non, pourquoi? C'est comme dans une équipe.
Mais non, c'est pas comme dans une équipe. Bah non, parce qu'une équipe. C'est une équipe de foot, on est 11, par exemple. Vous voyez, donc.
Et bah là, on n'a pas les mêmes relations.
Le vrai amour, c'est la fusion.
Partenaire.
Mais moi, je suis absolument pas d'accord. La fusion, ça détruit, ça laisse de la place pour rien du tout. Alors que. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que.
Donc vous, c'est pas de passion, partenaire.
Mais non, ça veut dire qu'on est déjà la passion et la fusion, c'est absolument pas la même chose. Moi, je n'ai pas vocation à être fongible dans
donc
le corps
jamais
de
rencontré
quelqu'un
sœur,
d'autre. Non,
jamais...
pas du tout. Ça, c'est
autrefois on disait mamie.
Exactement. C'est exactement le problème, à mon sens, des personnes plus âgées qui pensent que l'amour, ça doit être l'affaire de toute une vie, ça doit être la fusion absolue, etc. Moi, je pense que être en couple avec quelqu'un, c'est s'engager auprès de lui ou d'elle à être là, à être y compris quand ça va et quand ça va pas, à s'engager dans des valeurs. Non, je suis pas d'accord. Ben, je suis pas d'accord.
Oui, mais l'amour, c'est aussi de l'amitié.
Bah oui.
Il y a aussi une partenaire.
Il y a plein de gens qui disent mon partenaire est mon meilleur ami.
Oui, mais non, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est aussi ton partenaire. T'es son amoureux, t'es ton amant.
T'es ton meilleur pote.
Tu parles assez peu d'amour, là. Tu parles quand même de partenariat.
Non, mais parce que vous ne parlez que de ça. Donc, j'essaye de rééquilibrer. Et j'essaye de dire
c'est bien si on est aussi partenaire ou si on est aussi.
Oui. Il y a même enfin, faut qu'il y ait un petit quelque chose. Si
t'as pas
bien sûr. Mais si ça n'est que la fusion, et ben, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est quand, au bout de 8 mois, il n'y a plus de sexe, et ben, les gens partent. Désolé, Eddie, on utilise votre cas comme exemple. Mais moi, j'espère que si un jour, avec mon amoureux, on a, pour une raison ou une autre, on ne fait pas l'amour pendant 8 mois, la conclusion va pas être bah on se sépare, on n'a plus rien à se dire. On a beaucoup d'autres choses à faire ensemble et peut-être que c'est juste un moment.
On m'a dit à l'oreillette que toute la régie de l'émission est d'accord avec ce que vous dites. Loumé,
c'est parce qu'ils ont mon âge, de Catherine Solaire,
c'est truc générationnel.
Bah, on va demander. Moi, Catherine, ça me semble un peu. Vous voyez, quand j'entends Loumire l'après, bon, qui est plus jeune que moi, genre qui a 30 ans, ça me semble un peu froid. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je trouve ça très drôle d'entendre quelqu'un dire nous les jeunes à 30 ans. Pour moi, 30 ans, c'est pas jeune. 30 ans, c'est 18, 20 ans, 23 ans. 30
merci,
ans,
Catherine.
C'est adulte, quoi. Ça n'a rien à voir avec les jeunes. Enfin, c'est pas qu'est-ce pareil. On travaille, on est. Bon, enfin, ça, c'est un truc que je trouve très bizarre. J'entends des gens 40 ans maintenant qui disent nous les jeunes, donc 30 ans
ça c'est,
déjà,
ça, c'est dans le déni
avec la retraite, voilà, qui circulait tout le temps.
Écoutez, on se rassure comme on peut, Catherine.
mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord que, enfin, de toute façon, quelqu'un, un couple qui a pas eu de rapport depuis 6 mois 8 mois, ça veut pas dire que c'est fichu, mais ça dépend des circonstances.
Par exemple,
il disait qu'on a entendu, il disait que sa femme voulait pas parler, voulait pas échanger, c'est comme ça, un point, c'est tout. C'est pas du tout pareil que dire moi j'ai mal au ventre, ou moi ces temps-ci je suis déprimée. Enfin, ça dépend des circonstances. Mais c'est vrai que dans un couple qui dure, il y a forcément des moments où on ne s'aime pas. Quand ça dure des décennies.
Oh, c'est dur.
Ouais, mais c'est dur, mais on est capable. Enfin, l'amour, c'est aussi quelque chose de volontaire. C'est pas seulement quelque chose qui tombe du ciel.
Ah ben, j'espère bien.
C'est un truc que je trouve très bizarre, c'est qu'actuellement, il y a à la fois la pornographie d'un côté et le côté hyper fleur bleue. Ah ben, oui. On s'aime plus, on s'en va. Ben non, on s'aime plus, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aimer. Puisqu'on s'aimait, c'est qu'il y a quand même quelque chose entre nous. que faire. Et les émotions, ça vient beaucoup de nos pensées et de nos actions. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des pensées, enfin, cultiver les pensées pour ressentir de l'amour et pour construire ensemble. Bah, sauf si, bien sûr, on est en train de se noyer, on parlait de Noël tout à l'heure, ou que votre conjoint vous bat, vous mais... manipule, ok. Mais si c'est quelqu'un de bien, c'est dommage de tout casser parce qu'on est dans une période de creux, quoi.
Péricot,
pour moi, le vrai amour est une conquête quotidienne. Il doit progresser sans cesse.
Je suis d'accord.
Je suis plus amoureux en me levant le matin que la veille, en permanence. Ça. Le jour où c'est fini.
Bon, bah, et la fougue, et garder la fougue des débuts tout le temps. Mais bien sûr, c'est un travail de tous les jours. Mais bien sûr.
Garder la fougue du début tout le temps.
Mais t'es sûr. Ce... C'est donner le meilleur de toi-même en permanence.
Dans les faits, les amis, non. Ça
en fait, vraiment.
Si, il faut essayer de cultiver l'amour un maximum.
D'accord, la fougue des premières semaines, toute ta vie.
Finalement, les jeunes.
Mais moi, ce serait mon rêve absolu.
Ah oui.
Finalement,
un idéal.
Les jeunes, vous êtes.
Est-ce qu'on peut y l'atteindre?
Moi, j'ai pas envie du tout de me dire, tu vois, t'es avec quelqu'un, ça veut nous dire, on partage.
Non, mais tu vois la jeunesse,
pas,
Estelle.
Même si ça l'est, c'est pas le problème.
Vous voyez les jeunesses, la jeunesse Estelle.
On va avoir encore un propos anti-jeune.
Non, vous êtes très matérialiste, finalement. Ah, mais c'est votre époque.
Je voudrais que nous terminions avec, je vous demande de pas le couper, une histoire extraordinaire. C'est celle d'Alex. Alex, il nous appelle de l'honneur de Causse dans le Tarn. Et Alex,
Tarn-et-Garonne,
il a le petit accent qui va bien et il a une histoire incroyable à nous raconter. Allez-y, Alex.
Incroyable, je ne sais pas si elle est incroyable.
Si, c'est bon.
À vous écouter, elle semble incroyable. Pourtant, autour de moi, j'ai des gens qui sont ensemble, ils sont contents d'être ensemble, ils sont ensemble depuis longtemps. Enfin, moi, ce que j'entends à la radio, ça me paraît totalement improbable et... Moi, ce qui me fait rire, c'est d'entendre des gens trouver des excuses avant même d'avoir fait des conneries, quoi. D'ailleurs, c'est énorme. Donc, je ne sais pas si c'est pour se rassurer avant de faire la connerie ou de subir la connerie de l'autre. Mais enfin, si les gens ne sont pas contents d'être ensemble d'entrée, enfin, je vais vous faire gagner du temps à tous. Séparez-vous si vous n'êtes pas amoureux de vos dans votre couple, quoi.
Je suis tellement d'accord.
C'est hallucinant, quoi.
D'accord, Alex.
42
merci.
Ans, je suis avec ma femme depuis l'âge de 15 ans. On est très heureux d'être ensemble et on le restera encore longtemps. Et ça ne nous viendrait même pas à l'idée d'aller voir à droite ou à gauche. Enfin, ça me paraît complètement improbable. À mon avis, si vous vous engagez dans un couple d'entrée de jeu en mettant en place des stratagèmes pour trouver des échappatoires ou trouver des excuses alors que vous n'êtes pas encore ensemble, ça me paraît improbable, quoi. Donc, ne vous mettez pas ensemble si vous n'êtes pas sûr de vouloir être ensemble. Enfin, moi, à mon avis, c'est parce que vous n'avez pas trouvé l'amour, tout simplement, quoi.
Merci, Alex.
L'excuse-là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'amour, point barre. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour, quoi. Quand on est amoureux, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de réfléchir à tout.
D'avoir les marges de sécurité.
De secours, vous
merci, Alex. Mais je suis tellement contente de vous entendre dire ça. Ce que je pense. Juste, Alex, Catherine Solano disait quand on reste très longtemps avec la même personne, il y a des moments où on s'aime moins, où c'est compliqué. Oui, est-ce que vous, qui êtes depuis 27 ans avec la même personne, qui manifestement est extrêmement amoureux, Alex, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où c'était plus difficile, vous avez dû un petit peu lutter?
Non, par contre, je vous confirme que la santé, quand on vous dit que la santé c'est le plus important, c'est réellement le plus important. Moi, ma femme, elle a subi un problème de santé il y a 5 ans. Ça a été compliqué et notre amour nous a permis de nous en sortir.
Surmonter.
C'est moi j'ai subi. On est complètement impuissant face à la maladie.
Bien sûr.
Ma femme, elle a serré les dents au possible avec que seul objectif de revenir à une vie normale et continuer à partager notre vie de couple et de famille. Maintenant c'est des histoires anciennes. Et voilà, on continue notre bout de chemin et tout va pour le mieux, quoi. Et là, je suis vraiment sincèrement obligé de vous laisser. Je récupère ma troisième fille parce que nous avons trois enfants merveilleux qui reviennent d'un voyage.
C'est une belle conclusion.
Et la pauvre, elle se charge toute seule la voiture. Donc, je vous souhaite une agréable après-midi.
Super, Alex. Et merci, merci Alex d'avoir été avec nous. Super conclusion. Soyez amoureux. Bah ouais, c'est ce qui peut arriver de mieux. Évidemment, il a bien raison, Alex. Et merci Catherine Solano d'avoir été avec nous. C'était bien de terminer sur cette jolie histoire.
Très beau témoignage
d'Alex. Très très beau témoignage. Peut-on rester fidèle toute sa vie? C'est la question qu'on vous a posée, Rémi.
Ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux pensent que oui, on peut rester fidèle toute sa vie. Et ils sont nombreux, hein, 68% d'entre eux.
Et ça fait plaisir de voir ça. Vous voyez, Rémi, dans un instant, RMC s'engage pour vous. On va revenir sur le scandale des polluants éternels du côté de Lyon. On a du nouveau dans ce dossier. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h34 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de vous aider. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Avec Élise Dangean, aujourd'hui dans RMC s'engage pour vous et nous allons retourner à Lyon dans la vallée de la chimie contaminée aux polluants éternels. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, il y a du nouveau dans ce dossier Élise.
Les PFAS, c'est leur nom scientifique, sont invisibles à l'œil nu, pourtant ils sont partout autour de nous, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, en France, à l'étranger, bref, partout. Ces composés chimiques utilisés depuis les années 50 pour leurs propriétés résistantes ne se dégradent pas dans l'environnement éternel donc et dans nos organismes. Alors, on en sait encore très peu sur cette pollution, mais déjà de premiers effets secondaires ont été identifiés, problèmes de cholestérol, problèmes de foie, affaiblissement du système immunitaire des enfants et aussi augmentation du risque de cancer. On vous en parlait le mois dernier, nous avions été contactés par des habitants de la vallée de la chimie. Associations et riverains réclamaient alors à l'État des analyses de sang pour savoir si oui ou non ils étaient contaminés et dans quelle proportion. Et depuis notre premier reportage, il y a du neuf. Ce n'est pas l'État, mais la métropole de Lyon qui va lancer et financer une grande étude. Anne Gros-Perrin est vice-présidente déléguée.
On sait très bien que les services de l'État n'avaient pas les moyens d'engager un travail de ce type-là. Et il y avait une vraie volonté de la métropole d'apporter des réponses effectivement aux communes et aux citoyens qui sont concernés et de les apporter en transparence.
Mais attendez, c'est la métropole de Lyon qui va assumer seule le coût de cette étude qui concerne tout le monde, pas juste Lyon en fait.
Alors ce qui est sûr, c'est que l'État va pas du tout participer au financement de l'étude. Ce qu'on peut vous révéler aujourd'hui, c'est que la métropole va devoir débourser 240 000 euros au total pour les 4 années de l'étude. Elle va la réaliser avec l'Institut spécialisé de Fos-sur-Mer et c'est lui qui va contribuer le plus. Parce qu'au total, toutes ces analyses, ça représente 1 million d'euros, donc c'est énorme. Mais la métropole a bien l'intention d'aller chercher l'argent directement chez les entreprises à l'origine de cette pollution.
Bien sûr, merci.
Et j'espère bien qu'ils vont financer, puisque ni les collectivités, ni les usagers, ni les contribuables n'ont à payer pour des pollutions qui sont générées par ces entreprises. Donc effectivement, je souhaite et je défendrai de mon côté, on n'a pas encore engagé de procédure à ce niveau-là, qui est une application du principe pollueur-payeur et on l'a déjà partagé avec l'État.
Pour rappel, ce principe du pollueur-payeur est inscrit dans le Code de l'environnement.
Et c'est bien de le rappeler, Élise. En attendant, la première phase de cette étude commence dès cette année.
Oui, il va falloir en définir les contours, quelles sont les communes concernées, combien de citoyens volontaires, à quel rythme seront réalisées les fameuses prises de sang. Tout ça sera décidé dans les mois à venir. Les analyses sur la population démarreront en début d'année prochaine. Cette étude, elle sera votée en Conseil métropolitain à Lyon lundi. Il n'y a a priori pas de risque qu'elle soit pas votée, elle a déjà été examinée en commission, validée à l'unanimité, tout va bien de ce point de vue-là. Et elle pourrait faire référence bien au-delà de la région de Lyon, parce que les PFAS, on a encore assez peu de connaissances dessus, notamment sur les impacts sur la santé. Donc là, vraiment, c'est une étude extrêmement importante.
Et bravo à la métropole de Lyon de mettre en place cette étude, parce qu'elle pourra servir à bien sûr d'autres grandes villes de France. Merci beaucoup, Élise. On parle de quoi lundi ?
Alors lundi, on a un témoignage très important d'un réfugié afghan, réfugié politique qui demande la nationalité et qui ne peut pas l'obtenir parce qu'on lui demande des documents qui n'existent pas et qui n'est plus en mesure de demander. Qu'il a quitté. Voilà, un peu ridicule.
Merci beaucoup, Élise Dangean, d'avoir été avec nous. RMC s'engage pour vous tous les jours dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et Emmanuel Macron qui a repris la parole d'ailleurs. Et on se demande si c'était une bonne chose. On vous expliquera ça dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h41, c'est l'heure des immanquables dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Les immanquables, c'est les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on les commente, ces infos, avec Rémi Barré, Perico Légas, Loumir Laprès et Benjamin Muller. Et nous allons commencer avec la prise de parole du jour signée Emmanuel Macron, Rémi.
Oui, en marge du Conseil européen auquel il participe en ce moment à Bruxelles, le chef de l'État est revenu lors d'une conférence de presse sur la question de la réforme des retraites et le mouvement social actuel. Donc il dit notamment que le pays ne peut pas être à l'arrêt, que nous continuons d'avancer. Il indique par ailleurs être totalement disposé à recevoir l'intersyndicale. J'ai indiqué notre disponibilité
à avancer sur des sujets comme sur l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Voilà ce qu'elle dit.
Perico Léguez, c'est quand même lunaire. C'est quand même lunaire. C'est-à-dire que les syndicats réclament depuis des mois de voir Emmanuel Macron. Il dit que non. Et là, tout à coup, il dit mais si, mais ma porte est ouverte.
J'ai sur le président de la République, en toute sérénité, une interrogation qui survient quelquefois. Est-ce qu'il a toujours toute sa tête? Est-ce qu'il a
pas... Il est jeune, quand même.
Oui, non, mais d'abord, je sais que pour avoir cette fonction, il faut être un peu fou. Tous, voilà. Il y a des moments où je me demande s'il a les pieds sur terre et s'il n'est pas dans une... Alors, soit c'est une stratégie.
Non, mais ce qu'il dit exactement, il faut écouter ce qu'il dit. Bah, on juge...
Oui, redis exactement.
Voilà. Ce qu'il dit, c'est que le pays ne peut pas être à l'arrêt. Oui, nous continuons d'avancer, que la réforme des retraites poursuit son chemin démocratique, oui, parce qu'on sait qu'il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel qui doit être étudié. Bon, voilà. Et qu'aujourd'hui, il est prêt à recevoir l'intersyndicale pour discuter de certains détails. Auparavant, lorsqu'il a expliqué, lorsqu'il a évoqué des rencontres avec l'intersyndicale auparavant, il a dit ça ne sert à rien de les recevoir auparavant parce que ce qu'il me demande, c'est le retrait de la réforme.
Oui.
Non, il ne me demande
mais là,
que ça.
Voté,
c'est
voté.
Il ne demande,
ce qui est voté,
il ne demande
est voté
que ça.
Et n'est pas rectifiable dans l'État. Sauf à repenser.
Si, il y a des écrits qui peuvent être modifiés.
Donc, il
y a des écrits
qui peuvent être modifiés dans l'application. Je le dis respectueusement, il se moque des gens à qui il s'adresse. Ça n'est pas sérieux. Soit il accepte de la renégocier et il dit on va la remettre sur le
table. Non, c'est un peu ce qu'il fait là.
Il y a trois jours, il a dit c'est comme ça et c'est terminé.
Oui, mais là, il a changé d'avis.
Moi, alors, peut-être que c'est. De l'auditeur qui nous écoute depuis midi, on dit tout et son contraire. On a commencé l'émission.
Lui aussi.
Attends, on a commencé l'émission en disant ce serait quand même bien qu'ils reçoivent les syndicats qui demandent que à être accueillis. Oh oui, ce serait bien. Ils ont encore tendu la main hier et lui, il refuse.
À condition qu'ils se donnent la marge.
Deux heures après, il dit ma porte est ouverte.
Mais il aurait peut-être pu réfléchir avant.
Oui, bien sûr.
Bah oui.
Mais on peut quand même reconnaître. Ouf. Imaginez si là, il était arrivé à Bruxelles en disant, ils commencent tous à me casser les bornes, pour reprendre le slogan, je les recevrai pas, de toute façon, c'est acté.
Non. Là, il veut bien discuter à la marge de la taille des pantoufles
parce
et
que,
de la,
parce que,
et
du... non, l'usure professionnelle, c'est pas la taille des
pantoufles. Parce que la réforme.
C'est un peu le nerf du.
Parce que la réforme est passée. Il est aujourd'hui.
Les décrets existent, après.
Aujourd'hui, il est ouvert à discuter. Parce que la réforme est passée.
Lumière, non, mais en effet, moi, je pense que, et peut-être qu'on aurait dû être plus clair quand on en discutait ce matin, mais pourquoi est-ce que ce serait important de voir les syndicats? C'est en effet pour renégocier des choses. À partir du moment où tu arrives dans une négociation en disant ça non, et puis de toute manière le paquet total est voté, je rejoins Perico, il se fout un peu de nous, quoi, parce que en fait, c'est vraiment de la pure com de « Ah, ok, j'ai entendu qu'on m'avait fait le reproche que je ne tendais pas la main au syndicat. Paf, je dis que je tends la main au syndicat. » Et ça, je pense que c'est un problème récurrent de la part de cette administration, enfin, pas de cette administration, pardon, de ce gouvernement, c'est qu'il pense vraiment qu'on est débile.
Enfin,
c'est pour ça, d'ailleurs, que... Attends, je veux bien finir ma phrase. Ça se retrouve beaucoup, d'ailleurs, quand il dit « Il faut qu'on fasse de la pédagogie pour vous expliquer. Toujours, vous n'avez pas compris. » Non, on a compris.
On a réclamé de la pédagogie.
Pas d'accord.
Nous-mêmes, on a réclamé de la pédagogie, plus de pédagogie, plus d'empathie.
Non, mais de la pédagogie, eux, pour eux, c'est pas du dialogue, de la pédagogie, c'est descendant, c'est attends, t'as pas compris, je vais t'expliquer. Nous, ce qu'on demande, c'est de la concertation, du dialogue, de la coopération. Ça n'est pas la même chose.
Oui, enfin, il y a beaucoup de Français qui demandaient à ce qu'on leur explique cette réforme parce qu'elle était incompréhensible.
Par savoir à quelle sauce ils allaient être mangés.
Exactement. Je disais, les enfants, vous avez la mémoire courte. Après le grand débat, on a eu une séance de. Après les gilets jaunes, on a eu le grand débat pendant 6 mois. Avec une mise en scène prodigieuse dans toutes les villes de France. Ça a coûté une fortune. Il n'en est rien sorti.
Si, ensuite, la Convention citoyenne pour le QN. Pour le climat, dont il n'est rien sorti.
C'est un homme de théâtre. C'est un spécialiste de la mise en scène. Et là, je pense qu'il nous enfume parce qu'il a envie. Il est peut-être un peu inquiet. Il veut faire croire qu'il va ouvrir sa porte. Il va rien ouvrir du tout et il va essayer de passer en force.
La pénurie du jour, Rémi.
Oui, 15% des stations-service sont actuellement en difficulté au niveau national en raison du blocage de certaines raffineries ou de dépôts de carburant. Des stations donc en rupture d'au moins un carburant où il n'y a plus d'essence ou plus de diesel. Comme en octobre dernier, les difficultés varient fortement d'un département à l'autre. Selon les comptes faits par le Figaro, la Loire-Atlantique, c'est désormais le territoire le plus touché. 53,5% des pompes connaissent au moins une rupture de carburant. Même chose en Ille-et-Vilaine, le reste de la Bretagne ainsi que la Normandie sont également durement touchés. Même chose pour les Bouches-du-Rhône ou encore en région parisienne pour le Val-de-Marne.
Est-ce que vous en avez ras-le-bol, Benjamin Muller ?
Mais moi, je suis assez impressionné de voir que j'ai l'impression que les gens en ont pas tant que ça ras-le-bol.
Ah oui.
Oui, ben
ils s'en foutent. En fait.
Oui, c'est ça. Autant la précédente grève de la CGT, oui. Où là, c'était quand même difficilement justifiable. Je veux dire, quand il y avait le détail, on va pas revenir là-dessus.
C'était total.
C'était ça. Interne. Qui bloquait tout le pays pour un truc privé, une entreprise privée pour des conditions privées de quelques salariés. En gros, c'était ça l'idée. Oui. Autant là, moi, dès que j'entends dans des reportages ici ou ailleurs des gens qui sont en train de faire la queue pour mettre l'essence, tout comme pour les poubelles et tout, les gens disent mais moi je soutiens. Donc après tout, si je dois moins rouler, si je dois faire un petit effort et tout, donc est-ce que moi j'en ai ras le bol? À la limite, on s'en fout de moi. J'ai plutôt l'impression que globalement, les Français soutiennent. Soutiennent et sont prêts à galérer un petit peu, avec en tête que ça permet de faire avancer les manifestations, etc.
Mais moi j'ai l'impression qu'on s'est aussi habitué quoi avec ce qui s'est passé en novembre où c'était effectivement on avait l'impression de c'était le chaos, on
pouvait pas avoir d'essence, c'était horrible. Il y avait un vrai ras-le-bol en novembre et là je le sens moins là.
Et là finalement on se dit bon bah si j'ai pas d'essence bah écoute je ferai un peu de marche à pied, je reprendrai le vélo. On s'est habitué aussi à avoir de nouveaux modes de transport, marcher plus, le vélo, plus de transport en commun. Je parle des grandes villes évidemment, mais Lumière juste.
Oui, par rapport à ça, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que en effet il y a un soutien qui est réel parce qu'ils sont concernés les gens. Ils savent que c'est aussi pour eux, hein, les deux années de plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, et c'est ça qui est un peu incohérent dans le truc, c'est que moi-même, je souhaite le blocage. Alors, pas le blocage du pays de manière violente, c'est pas ça, mais je souhaite qu'on aboutisse dans nos revendications qui sont, en effet, pour moi, le retrait de cette réforme et remise à plat et une rediscussion. En même temps, ce que je constate, c'est que l'ambiance, elle est de plus en plus électrique. Et moi, j'ai peur, vraiment, j'ai peur que quelqu'un meure, que quelqu'un...
La complaisance.
Parce que tout ça, ça participe... au climat général, tu vois, c'est l'essence, et ouais. C'est les poubelles, et c'est les trains, et c'est les grèves, etc. Et je me dis, quelle irresponsabilité quand même que de prendre le risque de que ça parte vraiment en sucette, quoi. Et franchement, je vous dis, quand je vois les policiers qui tapent la brave, notamment qui met des coups de matraque, là, je me dis, on ne sait pas à qui
c'est. Sur la pénurie d'essence.
Non, je suis d'accord, mais ça participe de cette ambiance anxiogène, je crois.
Il faut tirer.
Mais c'est là que je te dis que ils ne savent pas sur qui ils mettent un coup de matraque. Tu mets un coup de matraque sur quelqu'un qui est cardiaque. Tu ne sais pas ce qui se passe.
N'oublions pas que comme se plaît à le dire Jean-Luc Mélenchon,
il n'y a pas beaucoup d'hémiplégiques en phase terminale qui vont manifester. Je te rassure.
Tu ne sais pas.
Toute proportion gardée. Ce sont des micro-phénomènes qu'on a eu. On a eu des petites pénuries, des petites coupures. On n'a pas eu la coupure d'électricité nationale. On n'a pas eu le pays bloqué parce qu'il n'y a plus de carburant du tout et des camions. Là, je pense que notre opinion, encore heureux. Je me dis, mais donc, ce sont des petits tests qu'on a eu et on s'est dit finalement.
Encore heureux, pas pour la CGT. La CGT voulait mettre l'économie française à genoux.
Elle n'y est pas arrivée. Si vraiment on avait un pays bloqué, moi j'ai connu 68 où c'était bloqué. Il n'y a plus rien. Donc on reste à la maison, on ne bouge pas. Et ça, si c'était ça, je ne sais pas comment réagirait la société française. Pour l'instant, on a eu des épiphénomènes. Effectivement, on les digère. Et puis, effectivement, on est en période de solidarité. Mais si on peut plus aller du tout au travail, qu'on peut pas rentrer à la maison, qu'il n'y a plus d'électricité et qu'il n'y a plus d'ascenseur. Mais ça peut arriver.
Bah, ça tient qu'à Emmanuel Macron, hein. Je le rappelle.
Oui, et aussi peut-être au syndicat de vouloir négocier et de pas être buté aussi.
Je suis d'accord.
Martinez n'est
dans les deux camps. Hein.
Laurent Berger n'est pas Martinez. Oui. Attention, Martinez comme interlocuteur, on serait pas dans.
On en revient à la proposition de Berger ce matin. On fait 6 mois de pause, on remet tout à plat, on discute, on débat. Il faut que Berger dès le début dise, ok, on a bien compris que le 64 ans, il faut pas que ce soit le seul point de discussion, parce que s'ils arrivent non, ça sert à rien. Si on reprend tout à plat, etc. Moi, je trouve que ça a quand même vachement de sens.
Souvenez ce qu'a dit Macron le mercredi. Il a dit encore 63 ans. Vous voyez, vous serez venu discuter de l'âge, c'est extraordinaire.
Non, mais ah bon, 63 ans, mais pourquoi pas. Enfin, c'est une réforme, quoi, dans ces cas-là. On va passer au piratage du jour.
Piratage du site de vente d'articles de seconde main très prisé des Français, Vinted. Depuis quelques jours, les témoignages de victimes se multiplient. Des cybercriminels se sont surtout concentrés sur les cagnottes, c'est-à-dire de l'argent qui est récolté par ceux qui sont inscrits sur Vinted quand ils vendent des vêtements, très fournis de certains clients faisant virer l'argent qu'il y avait sur ces cagnottes sur leur propre compte.
Oui, et la nouveauté, c'est qu'avant, en fait, on faisait du phishing, c'est-à-dire qu'on vous envoyait des mails en mettant cliquez sur ceci, cela, et là, on clique même plus, vous arrivez sur votre compte Vinted, il n'y a plus rien. Et alors, ça a des conséquences, c'est qu'il y a plein de gens qui, voyant ça, ont décidé de virer l'argent sur leur porte-monnaie très vite, et donc, en fait, il faut attendre beaucoup de temps maintenant pour que l'argent soit viré. Ça vous inquiète, ça, Lumière la presse, c'est-à-dire le fait que, on est plus en sécurité, même sur des énormes sites, quoi, finalement.
Bah oui, je pense que c'est inquiétant. Et c'est là que, encore une fois, moi, j'en reviens toujours à cette idée de la régulation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois, là, j'étais en animation dans une école d'ingénieurs récemment, où ils font du data. Bon, franchement, j'ai pas tout compris. Oui. Du data truc. et je me
ça
dis. C'est, ouais. J'animais un truc sur le climat. Donc, et l'impact du numérique sur le climat. Donc, pour d'accord. le coup, là, j'étais en maîtrise. Mais ce que je me dis, c'est quand même qu'on a une nouvelle génération, notamment de jeunes, qui savent faire des choses que personne d'autre ne sait faire. Et que, du coup, quand est-ce que la législation va un peu rattraper ça? Parce que ça crée un espèce d'énorme flou, juridique notamment, mais pas que, et réglementaire.
Bah là, c'est du vol.
Ouais, là, c'est la cybercriminalité, là.
Oui, oui, non, mais pas en termes de mots, enfin, de loi, t'as le droit de le faire, t'as pas le droit de le faire, mais en termes de contrôle et de blocage, quoi. Enfin, c'est-à-dire quand est-ce que les instances réglementaires et régulatrices s'équipent pour faire face à ce genre de petits malins, entre guillemets, qui savent faire des choses que personne ne sait faire.
Parce que le dopage, ils ont toujours.
C'est ça. Exactement. Et moi, ça, c'est ça que je trouve assez inquiétant, parce que c'est finalement quand t'as toute une partie de la population qui a toujours une longueur d'avance sur les régulateurs, en fait, ça veut dire que les gens les plus vulnérables, comme d'habitude, sont ceux qui vont se faire.
Là, c'est les gros. En fait, ils disent que l'arnaque leur prend beaucoup de temps. Donc, en fait, ils s'embêtent pas avec les comptes à 100 euros. Ils vont tout de suite sur les comptes où les gens, en fait, ils laissent beaucoup d'argent. Ils sont malins, ça. Ils doivent pas perdre de temps avec les petits comptes et on fait beaucoup d'argent. Mais enfin, c'est vrai que quand vous voyez tout votre porte-monnaie Vinted qui
vous paraît, alors que
vous êtes dit, tiens, je vais avoir mon écolo, je vais vendre mes vêtements de seconde main. Bon.
En fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, les pièges, ils étaient quand même assez grossiers. C'était bonjour, je m'appelle Marcel, j'habite au Mexique. J'ai un million d'euros à donner, mais pour ça, il faut que tu me fasses un virement de 400 balles. Vous voyez le truc, tu dis, ça me paraît quand même. Et là, ça m'a l'air quand même de plus en plus perfectionné. Même les mails frauduleux qu'on reçoit tous, vous devez recevoir.
Il y a plus de faute d'orthographe dedans.
Exactement. Il n'y a plus de faute d'orthographe. Même les adresses sont plus comme avant. Avant, c'était grossier. Le site de l'assurance maladie, par exemple. Moi, j'ai reçu ça. Ou EDF, c'est hyper bien fait. D'ailleurs, EDF, l'assurance maladie, tout ça, généralement, ils vous envoient un mail dans la
poste. Oui, juste après.
Faites gaffe, etc. Mais globalement, je veux dire, on fait tous attention chez soi quand on sort de la maison. On ferme à double tour. Les gens mettent des alarmes et tout. Sur le téléphone, c'est quand même la base. C'est Anthony Morel. Moi, dès que je l'écoute, je fais tout ce qu'il dit, en fait. C'est un peu un gros. Mais en fait, il faut installer tout ce qu'il dit. Ce monsieur devrait être ministre.
Il y pense également.
C'était quand même plus sûr quand on avait livré de cas des épargnes, il fallait aller à la poste pour tirer l'argent.
Mais oui, comme c'était QA,
mais oui, c'était mieux avant, Périco.
C'était mieux avant. On va terminer sur cette phrase qu'on adore dans Estelle Midi. Et on va retrouver tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show. Elle va bien.
Vous êtes en forme, là, je sens sa bataille.
Moscato, il vient tout le temps, lui.
Elle serait pas de gauche, la jeune femme qui parle avec vous, là, un peu, non?
Lumière
la presse.
Elle se cherche.
J'ai quand même l'impression que là, c'est Nagelsmann. Il est viré du Bayern de Munich alors qu'ils sont en quart de finale, incroyable. Les Allemands perdent-ils la tête?
Ouais, mais c'est un autre Allemand, surtout.
Oui, c'est l'autre Allemand, c'est Tourelle qui a entraîné le PSG. Ouais. Eh oui, ça reste un
Allemand.
Ça va redémarrer, ça va attaquer, la bougie bouche va s'en rallumer, attaque. Cette Argentine est-elle remarquable, insupportable? Ils ont fait un match cette nuit. Ah, mais le décalage horaire, bien sûr. L'Argentine a encore fêté son titre de champion de France.
Il le fait trop en 4 ans.
Il balance encore sur les. Ils ont des allusions sur les Français. C'est pas la classe internationale, quand même, l'Argentine.
Non, on peut pas dire. Non, c'est vrai. Voilà. C'est tout? Écoutez, on a perdu Vincent Moscato. Enfin, on va le retrouver dans un instant, le super Moscato Show. Et puis nous, on vous souhaite un bon week-end et on retrouve Estelle Midi, lundi de midi à 15h. Salut à tous.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.